France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard, vient de faire une razzia aux Golden Globes. La haine de Kassovitz a fait sale comble à la scène musicale. Dans un autre genre, évidemment, Dirty Dancing déboule à Paris. Le Roi Lion, Les Misérables, Elle le Dolly, ça chante sur scène en France en ce moment, et donc ça danse aussi. Et cette danse s'adresse ouvertement au grand public. Peut-être parce qu'on en a bien besoin de ce plaisir simple en ce moment. Ce moment même solitaire, où on ne compte plus que la musique, la vibration et le mouvement. Bonjour Mourad Merzouki.
Bonjour.
Et bienvenue dans les Midis de Culture. Est-ce que ça vous arrive de danser seul chez vous ?
Ça m'arrive encore. Ouais, ça m'arrive encore. C'est un, comment dire, c'est presque, oui, un rituel. C'est, enfin, j'ai été baigné dans l'expression du corps depuis tout petit, hein, d'abord par les arts martiaux, puis ensuite par le cirque, et ensuite la danse. Effectivement, ça me permet de résister à une société pas toujours simple, pas toujours évidente. Ça me permet aussi de m'exprimer, de partager, de rencontrer. Voilà, c'est l'essentiel, je crois, le corps.
On a rappelé cette très belle phrase dans le Point Culture de Marie Sorbier, de Nietzsche, qui dit qu'une journée où on ne danse pas est une journée perdue.
Ouais, tout à fait.
Ça vous correspond complètement.
Ah oui, ça me parle, évidemment. Ouais.
Alors, donc, vous êtes évidemment chorégraphe et vous reprenez un spectacle. Et je vais employer un mot que d'ordinaire, j'essaye de bannir quand même. Mais c'est un spectacle culte et c'est vrai. Pixel, c'est le titre. Vous l'avez créé il y a 10 ans avec votre compagnie Kefig. Et il a tout de suite rencontré son public, ce spectacle. Il a même sidéré les critiques de l'époque. J'ai retrouvé des termes. C'était vraiment « on est baba dans le monde ». C'était écrit comme ça. Sur scène, 11 danseurs et artistes de cirque. Et puis, évidemment, les effets numériques incroyables hein, de Adrien Mondo et Claire Barden qui donnent l'impression que les artistes dansent avec les projections. D'ailleurs, c'est assez difficile à décrire, en fait, ce qui se passe sur scène. Pourquoi vous avez voulu remonter ce spectacle ?
Bah, c'est une belle histoire, Pixel, effectivement, parce qu'il associe la nouvelle technologie, les corps, la danse. Un spectacle qui a été créé il y a 10 ans, à un moment où la place du numérique prenait une place importante hein, au quotidien, dans notre quotidien. Et puis pour moi, j'ai eu envie effectivement d'approcher finalement cette technique qui était importante pour trouver une place à mon imaginaire, à ma créativité. Et c'est vrai que la place du numérique me permet aujourd'hui d'aller peut-être encore un peu plus loin dans mon travail de chorégraphe. Et cet outil m'a permis effectivement d'imaginer comment dire une chorégraphie avec une scénographie en 3 dimensions. Et puis aussi d'élargir le partage de la danse avec un public plus grand encore, parce que les nouvelles technologies suscitent curiosité, intérêt, et puis encore une fois, ça fait partie de notre quotidien. Voilà, donc Pixel, c'est un rendez-vous avec cette technique dans l'espoir de partager toujours encore un peu plus la danse au plus grand nombre, de surprendre aussi. Donc c'est vrai que quand on est chorégraphe, on est toujours à l'affût comme ça de nouvelles idées, de nouvelles collaborations. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas et ça m'a permis effectivement d'imaginer cette aventure qui lie donc la nouvelle technologie, la danse, mais aussi la musique, cette formidable musique d'Armand Amar, et puis toujours cet intérêt pour le cirque, pour la danse contemporaine, le hip-hop, etc. Donc je suis ravi parce qu'effectivement, je me rends compte aujourd'hui qu'un spectacle comme celui-là permet d'avoir une place peut-être encore un peu plus importante de la danse, là où on sait que beaucoup pensent que la danse n'est pas pour eux, qu'on n'ose pas aller voir les spectacles de danse, qu'on a peur de s'ennuyer, etc. Mais Pixel, j'ai un peu l'impression qu'il met tout le monde d'accord. C'est-à-dire, même si on n'est pas connaisseur, bah finalement, on est porté par la poésie de ce spectacle, par l'énergie aussi des danseurs. Et pour moi, c'est important. C'est aussi pour ça que je fais ce métier.
Et on va revenir, bien sûr, sur ce qui se passe sur scène. Mais vous, en tant que chorégraphe, en tant qu'homme aussi, comment ça se passe de reprendre un spectacle? Comment on le regarde? Vous avez changé, j'imagine, aussi. Vous avez évolué. Quel rapport ça procure à l'œuvre que vous aviez créée?
Alors, il n'y a pas eu de coupure, en fait.
C'est ça, vous avez continué à le jouer
le spectacle a tourné à travers le monde. Il ne s'est jamais arrêté. Et donc, il n'y a pas eu de grands changements. Les seuls petits changements, c'est la distribution. Il y a quelques danseurs qui vont arrêter, se projeter dans d'autres projets. Mais sinon, le spectacle...
Il est toujours d'actualité.
Le spectacle est le même. Et c'est ce qui est aussi formidable, c'est qu'il n'a pas pris une ride. Ouais. Alors, moi, quand je le vois encore aujourd'hui, je me dit bah, finalement, vous savez, c'est comme un tube, c'est comme un, c'est-à-dire un moment on se dit bah, effectivement, si on peut le voir avec autant d'émotion 10 ans après, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec le public. Les artistes le défendent aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 ans, et c'est ça aussi qui est fabuleux. Et moi, je suis ravi parce que je vois effectivement aussi un public qui évolue dans l'approche de mon travail aussi, c'est-à-dire que il y a Pixel, puis il y a d'autres spectacles, donc forcément on va comparer ce spectacle à mes autres créations, et en fait Pixel va donner envie à un public qui connaît pas mon travail d'aller découvrir d'autres spectacles, et c'est ça aussi qui est chouette.
Ce qui est amusant, c'est quand vous travaillez comme ça sur le numérique qui prend une grande place, où on voit vraiment, je le disais, les danseurs danser, s'exprimer, échanger avec des projections, avec quelque chose qui est complètement immatériel, on va dire. Et comment conserver la beauté quand même de la danse, qui est la matérialité du corps? C'est-à-dire que comment conserver ça, c'est-à-dire que faire en sorte que le corps du danseur ne soit pas dépassé par la technologie.
Alors c'est une très bonne question. C'était un peu le risque que je prenais en travaillant avec de la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo devienne gadget et vienne finalement prendre le pas sur l'essentiel, c'est-à-dire le corps, la danse. Et donc j'ai travaillé sur un réel équilibre dans le spectacle. Il n'y a pas que de la vidéo, ça reste un spectacle de danse. Et alors ce qui était intéressant dans ces projections, c'est que finalement c'est très minimaliste. Ce sont des points de lumière. C'est pas une vidéo qui représente un paysage ou je ne sais quoi. Ce sont vraiment des pixels. Et donc le fait que ce soit minimaliste et que ce soit pas utilisé pendant tout le spectacle, et ben finalement il y a un équilibre qui reste juste entre la place du corps et l'image. Et donc le spectateur retient quand même, enfin je l'espère, mais je crois, oui, c'est un peu les retours que j'ai aujourd'hui, un spectacle de danse avant tout, qui est sublimé par ces images qui viennent effectivement mettre en avant quelque chose d'assez étonnant, le côté trois dimensions où on ne sait plus si c'est l'image qui fait bouger le corps ou l'inverse. Voilà, tout ça surprend, crée quelque chose d'inattendu et vient porter le corps sans le brouiller, sans l'écraser, sans lui donner quelque chose de gadget. Là, ce serait une erreur.
Mais c'est un travail de précision, à mon avis, extrêmement justement difficile pour les danseurs de réussir ça, de danser comme ça avec ces pixels dont vous parlez.
Alors, ça a été effectivement un travail très complexe, très compliqué. Quand on est sur scène, quand le danseur évolue avec la vidéo, en fait, c'est pas du tout ce que le spectateur voit. C'est-à-dire, en fait, tout est brouillé, on voit comme ça une multitude de points au sol, et alors que le spectateur, il voit un chemin, il voit un rond, un cercle, il voit... Et donc, il a fallu effectivement que le danseur répète dedans-dehors. C'est-à-dire que par moment, il devait être au plateau, par moment, il devait s'en extraire pour comprendre ce qui se passait avec l'image. Donc ça a été complexe. Et ce qui a été le plus difficile, je crois, dans ce projet, c'était il y a 10 ans, les machines avec lesquelles on travaillait, ce sont pas les machines d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand ça bug, et il fallait attendre le temps de chauffe, le temps de reprise. Parfois, c'est plusieurs heures. Donc, un corps qui s'arrête de danser pendant plusieurs heures, il se refroidit. Donc, il fallait que j'harmonise finalement ce qu'attend le corps et ce qu'attend la machine. Voilà, les deux temporalités, exactement. Donc c'est vrai que ça a été parfois compliqué pour les danseurs, parce qu'il fallait que psychologiquement, en plus de ce qu'il doit apporter physiquement, il fallait qu'il accepte cette temporalité que nous impose la machine.
Mmh. Il y a des effets qui se créent en direct sur scène, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont programmées, d'autres pas du tout en fait.
Voilà, tout à fait. Alors quand j'ai travaillé avec Adrien et Claire, c'est vrai que leur habitude c'était plutôt le côté aléatoire de l'image. Là où moi j'avais besoin de tout écrire, parce que la chorégraphie est écrite, elle est écrite sur la musique. Enfin, pour les ensembles, je ne pouvais pas être sur l'improvisation. En tout cas, c'est pas ce que je souhaitais dans ce projet. Et donc il y a eu un moment effectivement de grand débat pour pouvoir écrire la chorégraphie sur ces projections. Et donc, finalement, le parti pris que l'on a eu, c'était de dire par moment, la vidéo est enregistrée, comme on enregistre la bande-son, et donc, effectivement, là, on est sûr que la chorégraphie va tomber au millimètre près sur l'image. Et puis, par moment, c'est dirigé en live par un technicien sur un, avec une tablette et un stylet, et là, il va suivre le danseur avec ce stylet. Donc, ce qui crée, finalement, encore un peu plus ce qui crée davantage de questions pour le spectateur où il sait plus est-ce que c'est la vidéo ou est-ce que c'est le danseur qui va donner comme ça le rythme et de la chorégraphie. Donc voilà, donc dans ce spectacle là il y a parfois des moments enregistrés puis parfois ce côté comme ça plus souple qui est fait en direct en live par un technicien. Donc d'un soir à l'autre, il y a comme ça quelques changements sur la projection.
Vous expliquiez que pour les danseurs, il fallait parfois qu'ils puissent s'extraire de la scène pour comprendre ce que voyait le public, puisqu'effectivement, c'est une question de profondeur, voilà. Ça me fait penser à cette question-là, la question suivante. Est-ce que quand on est danseur, on a totalement conscience de ce que l'on projette comme image, de ce que va voir le spectateur, en dehors de toute projection numérique, voilà. Quand on est sur scène, ouais, est-ce qu'on sait exactement ce qu'on produit ?
Non, on le sait pas exactement, et c'est aussi ce qui est beau, je trouve. Le danseur, il se donne à 1000%. Il est généreux, il est dans le partage. Il a envie d'être beau, il a envie de séduire, il a envie de. Il y a tout ça qui l'incarne au moment où il va danser, mais il ne mesure pas ce qui va se passer dans la tête du spectateur. Bien sûr, il a les retours, quand on va le féliciter, quand on va sur le moment même, non, il y a une espèce de lâcher prise, mais c'est ça qui est formidable quand on est danseur, c'est que on va pas se dire au moment où on danse qu'est-ce que le public peut bien penser, non, il se lâche totalement. Et ce qui est magnifique, c'est quand effectivement on sent dans le regard du spectateur, dans le retour du spectateur, bah tout ce qu'il a ressenti, comment il a été vibré, comment il a été porté par la chorégraphie. C'est ça qui est magnifique dans le vivant, dans le spectacle vivant, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la fois immédiat, qui change d'un soir à l'autre, mais qui est d'une telle puissance, c'est-à-dire cette poésie que le spectateur va vivre, va ressentir, tout le monde devrait la vivre et la partager. Et elle est importante, elle est précieuse. Je crois que, et c'est ce qui est beau dans la danse, et c'est ce qui m'anime quand je crée chorégraphie, c'est-à-dire au-delà de me dire qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais partager avec le spectateur, c'est ce que ça va provoquer chez chacun d'entre nous. Puis elle met souvent tout le monde d'accord, dans le sens où on aime ou on n'aime pas, mais on a quelque chose qui se passe dans la salle, qui est partagé par son voisin. Je trouve ça génial. Enfin, les théâtres sont des lieux qui rassemblent, qui rapprochent, dans lesquels on vit des émotions qui sont fortes. Et quand on sort de là, on n'est plus tout à fait les mêmes.
Je voudrais vous faire écouter les réflexions d'un metteur en scène que vous connaissez bien, c'est Philippe de Coufflet. Il était invité sur France Culture, c'était en juin dernier.
Pour moi, en création, c'est vital. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Alors, c'est du travail. Je sais qu'on doit accomplir un certain nombre de choses dans la journée, dans la semaine, etc. Mais j'ai besoin que ça se fasse d'une manière ludique. Et c'est souvent par des erreurs, par des détours, que viennent les vraiment bonnes idées, les choses qui vont même mettre tout d'un coup une idée simple en distance et lui donner plusieurs niveaux de lecture. Donc, il faut prendre le temps d'errer un peu. Et cette errance, pour moi, elle doit être agréable, ça doit être un bon moment. On vit dans un monde quand même qui est souvent assez sinistre, et j'essaye, lorsque c'est un microcosme, une compagnie, une troupe comme ça qui est en train de répéter, j'essaye de réunir des gens avec lesquels on va prendre du plaisir et ensemble développer des choses qui nous nourrissent, qui nous font notamment rire. Donc oui, ce plaisir simple, heureusement, il est toujours là.
Philippe de Coufflet qui évoque la joie et même le principe de plaisir dans son travail, dans sa pratique. Pour vous, c'est important aussi le fait d'abord de vous faire plaisir, de faire plaisir aux gens avec qui vous travaillez, et ensuite d'en transmettre.
Oui, tout à fait. Je le rejoins totalement à cet endroit-là. Moi, j'assume totalement des spectacles divertissants, des spectacles de plaisir. J'ai une approche à la danse, à la chorégraphie par cet angle-là, c'est-à-dire celui où on se pose pas de questions, on se laisse porter par une générosité, par le plaisir, par la beauté aussi.
Oui, je voulais vous poser la question de ça, de la beauté, oui.
Ouais, donc effectivement, la beauté est importante pour moi, d'où ce travail scénographique, de lumière, de costumes. Voilà, j'ai une approche de la chorégraphie qui est à cet endroit-là. Je fais pas partie de ces chorégraphes, vous savez qu'on dit chorégraphes engagés, qui vont parler des mots MAUX de la société. Ça, je ne saurais pas faire. Je suis plus à l'aise à partager des spectacles où on passe un joli moment, où finalement on a le plaisir d'avoir des corps qui sont dans le partage, qui sont dans le virtuel, qui sont dans l'image, dans la beauté, tout ça m'importe. C'est peut-être lié à mon histoire avec le cirque, où j'ai travaillé d'abord la prouesse avant le sens du spectacle. J'ai gardé ça et j'aime être à cet endroit-là. J'aime que le spectateur, effectivement, à l'issue de mes spectacles, il me dit j'ai rêvé, j'ai été porté par la musique, par tel ou tel mouvement. Enfin, tout ça est important pour moi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai mieux compris finalement la chorégraphie, la danse. C'est par cette approche-là. Sinon, peut-être que j'aurais été plus réticent, j'aurais pas osé comprendre l'art chorégraphique. Mais le fait que de me dire finalement tu peux imaginer des spectacles qui sont des spectacles de partage, de simplicité, de croisement aussi. Moi j'adore quand je fais travailler un danseur de hip-hop avec une danseuse classique, quand je fais travailler une danseuse classique avec un acrobate, etc. J'adore tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au-delà d'une rencontre artistique, il y a aussi quelque chose qui va un peu plus loin, c'est-à-dire ce sont des mondes qui vont cohabiter, et ça aussi c'est un signe fort, ou en tout cas c'est quelque chose d'important que j'aime partager avec le spectateur, c'est-à-dire on montre des possibles.
Oui, voilà, vous disiez que vous n'étiez pas un chorégraphe des mots du monde, mais vous êtes quand même un chorégraphe, comme vous le dites, de l'échange, du partage et de la rencontre. Quelque part, il y a quelque chose finalement de politique là-dedans, en fait.
Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que par cet angle-là, c'est totalement politique. Et là, je me sens plus serein, plus à l'aise à cet endroit-là pour le partager de cette manière-là, plutôt que d'aller traiter tel ou tel sujet où c'est plus complexe, plus compliqué, surtout quand il n'y a pas les mots. Mais moi, j'aime l'idée aussi que le spectateur reparte en disant, finalement, ce petit jeune que je croyais il m'a partagé tout autant d'émotions que si j'allais voir un opéra. Enfin, ça c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Et puis aussi, encore une fois, j'ai cette chance de pouvoir réunir des mondes avec mon travail. J'arrive comme ça à faire dialoguer des mondes qui pourraient passer côte à côte sans jamais se dire un mot. C'est vrai que la force d'un artiste, d'un chorégraphe, c'est qu'il a cette capacité, cette possibilité en tous les cas de faire des connexions, et ça c'est un vrai bonheur.
Vous avez été formé aux arts martiaux, vous l'avez dit, au cirque, et bien sûr donc au hip-hop et à la danse urbaine, et on vous présente toujours comme celui ou un de ceux en tout cas qui a vraiment amené le hip-hop sur, on va dire, les scènes traditionnelles. Je voudrais qu'on écoute ensemble une archive, Mourad Merzouki, elle date de 1995. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est un extrait d'un documentaire qui s'appelait Génération Hip-Hop ou le mouvement des Zup, donc ça date, hein. C'était sur France 3 à l'époque, et vous êtes interviewé aux côtés d'un autre danseur, c'est Rachid Hamchaoui. On écoute ça.
Quand on nous ferme les théâtres, on nous ferme pas les théâtres en disant toi t'es une racaille, dégage. C'est vous faites de la danse urbaine, ah c'est bien. Et puis tu fermes la porte, donc tu es dans une banlieue, tu fais de la danse urbaine, t'es une racaille.
Comment une personne qui a pas l'habitude de côtoyer les milieux urbains vont se permettre de venir dans un gymnase ou dans telle salle, il y a un spectacle de danse hip-hop? C'est une peur. Je sais pas d'où elle vient, mais ils ont peur.
Ils ont peur de se mélanger.
Ils ont peur.
Ce qui fait que nous, de par le travail qu'on fait, on peut pas toucher un autre public.
On parle d'intégration, mais nous, on est complètement intégrés. Hein. C'est eux qui sont pas intégrés.
Je peux pas être plus intégré que je ne le suis.
Hein. Non, exactement. À part de se désintégrer. Là, ils vont sentir qu'on est intégré. Mais nous, on est ce qu'on est.
L'intégration, ça reste qu'un nom, un nom, et puis il n'y a rien derrière.
Voilà.
Il n'y a rien derrière.
Pour changer les choses, c'est super simple. Il n'y a pas mille façons. C'est d'ouvrir les théâtres.
Vous étiez tout jeune, Mourad Merzouki, mais c'est beau ce que vous dites. Et moi, ce qui me frappe, c'est que vous dites que vous aimeriez que ce soit les gens du centre-ville, on va dire les bourgeois du centre-ville, qui viennent dans les gymnases de ce qu'on appelle les quartiers périphériques. Et pas l'inverse. À l'époque, c'est pas l'inverse que vous demandiez.
Oui, oui, tout à fait. Alors, je voudrais simplement saluer mes amis Rachid Hamchaoui, effectivement, et Najib Guerfi, qui sont de grands danseurs qui ont grandi à mes côtés à Saint-Priest, dans l'Est lyonnais. Effectivement, ce qu'ils disaient en 1995, c'est tellement précieux, c'est tellement important, c'est ce qu'on avait dans la tête. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importait à ce moment-là, c'était de partager ce que l'on est. Rachid, Najib sont des danseurs de tel talent, qui avaient des choses à dire, à partager avec tous les publics et pas simplement avec les copains de la cité. Ils avaient envie de, voilà, d'exprimer leur sentiments, leur. Et donc, effectivement, on a continué, ils continuent à danser, les copains, ils continuent à s'exprimer au travers de la danse. On avait envie, à cette époque-là, c'était effectivement de dire, on est une jeunesse comme n'importe quelle autre jeunesse qui avons envie d'émerveiller, qui avons envie de partager nos créations. Donc c'était en 1995 et aujourd'hui encore, on a tellement de jeunes qui sont avec cet état d'esprit qu'avait Rachid et Najib, c'est-à-dire nous on a besoin d'outils, on a besoin de vous montrer ce de quoi on est capable. C'est aussi ça qui me donne cette énergie aujourd'hui, 30 ans après, de continuer. Parce que au-delà de la beauté d'un spectacle, c'est aussi tout ce que ça peut apporter dans la tête d'un jeune qui se dit, finalement, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, demain, raconter, écrire, créer des spectacles. Et voilà, moi, je suis toujours très heureux de voir comme ça une jeunesse qui nous surprend par son talent de danseur, son talent de chanteur, son talent de plasticien, etc. Donc voilà, mais j'ai eu beaucoup de frissons en écoutant Rachid.
Elle est jolie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent aussi de cette fameuse intégration. Et ils disent, si on continue à s'intégrer, on va se désintégrer. C'est une blague, mais c'est bien vu et c'est assez intéressant parce qu'ils pointent du doigt ce risque-là aussi qu'il y avait à ce que faire entrer le hip-hop, la danse hip-hop sur les scènes publiques, financées. C'était un risque aussi que le hip-hop perde quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, 30 ans après?
Alors, effectivement, c'est un risque, mais on a deux options. Soit, effectivement, c'était de rester entre les copains à danser au pied de la tour, simplement se renouvelle pas. Pendant 2 ans, les gens vont être surpris par un jeune qui tourne sur la tête, mais on n'évolue pas. Soit, on prend le risque de pousser la porte de l'institution, pas pour être, même si... naïvement, à l'époque, on devait, pour certains, enfin, on devait être, il y avait de la récupération, il y avait de l'instrumentalisation, certainement. Mais en même temps, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on sort pas du conservatoire, on n'a pas d'outils, on n'a pas de quoi s'exprimer. Et donc, il fallait qu'on prenne ce risque. Je dis un risque parce que l'institution, pour nous, c'était un ovni, hein. Et on pousse la porte du théâtre pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière. On rencontre un directeur, on rencontre des chorégraphes, on rencontre des danseurs, on rencontre... Donc du coup, tout ça nous permet finalement de se remettre en question, d'apprendre, de dialoguer, d'aller vers l'autre, etc. Donc ça a été une belle école d'une certaine manière. C'est-à-dire que le fait d'être monté sur une scène, c'est pas de quitter la rue pour aller sur une scène, c'est de faire des allers-retours, se nourrir de ce que peut apporter un théâtre pour continuer à créer, pour continuer à évoluer dans cette danse qui était regardée à l'époque comme une danse éphémère. Donc c'est ça qui est génial, c'est que finalement 30 ans après, la danse hip-hop, elle évolue dans les plus grandes scènes du monde et elle continue dans la rue. Elle continue encore dans les quartiers populaires. Et moi, j'ai à cœur de continuer à travailler dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que pour moi, je vois ces rendez-vous comme une espèce de marche-pied pour ensuite s'ouvrir à d'autres formes artistiques, pour aller écouter d'autres musiques, pour aller voir d'autres danses, sans se renier d'une certaine manière. Aujourd'hui, moi, je continue à aller regarder les battles, à travailler avec des danseurs de hip-hop.
Vous en avez besoin aussi dans votre
J'en ai
pratique.
besoin, c'est mon histoire et je la renie pas. Mais heureusement que j'ai poussé la porte de l'institution parce que ça m'a permis aujourd'hui de grandir dans ma discipline, dans mon travail de chorégraphe et aussi dans dans ce que je représente en tant que citoyen. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des gens incroyables, j'ai pu me remettre en question, j'ai pu partager mon histoire et c'est ça qui est formidable. Mais il fallait à un moment que je sorte de ma zone de confort et c'est pas facile. Donc ce que dit Rachid et Najib, ouais. À cette époque-là, c'est vrai que ils ont raison, il a raison quand il dit à force on se désintègre, on s'enferme et on se dilue, on s'éteint et c'est ça le danger. Alors que le fait d'aller s'ouvrir, d'aller à la rencontre, d'oser, ça nous a permis de faire de belles rencontres. Et puis, mécaniquement, pour celui qui pensait qu'on était comme ça, notre regard et vice-versa. Voilà.
Mourad Merzouki, on est de la même génération, vous avez 52 ans. Et récemment, vous vous êtes posé la question de la pratique et de la pratique, oui, de la danse hip-hop avec un corps qui serait plus celui de la jeunesse auquel cette danse est toujours associée. Je veux bien que nous racontiez ça, ce spectacle, Beau Séjour, comme ça, cette idée-là. Vous en avez tiré quelle conclusion finalement? Est-ce qu'on peut encore danser le hip-hop quand on a passé 50 ans?
Alors, ce qui est génial aujourd'hui, c'est quand même de voir un danseur qui a passé 50 ans et qui continue à danser, qui vient du hip-hop et qui continue à danser. Moi, ce que je retiens, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que la danse hip-hop, on la regarde pas simplement par son côté technique, démonstratif, bien spectaculaire. Sûr. On va la regarder autrement. On voit des danseurs aujourd'hui, bien sûr, qui ne tournent plus sur la tête, sur un bras, parce qu'ils ont passé 50 ans. Il y en a certains qui sont grand-père, grand-mère, et qui dansent formidablement bien. C'est-à-dire qu'on va les regarder à un autre endroit. C'est un corps qui a vieilli, c'est un corps qui est mature, c'est un corps qui est charismatique. Et donc, cette approche-là, elle est juste formidable. Ça veut dire que la danse hip-hop a encore des choses à partager avec le spectateur, au-delà de ce côté démonstratif et spectaculaire. Et c'est ça que je retiens. Donc, j'invite aujourd'hui le spectateur à venir voir ces danseurs qui sont plus tout jeunes, mais qui ont encore des choses à partager avec nous, tant ils sont beaux dans ce qu'ils sont aujourd'hui, avec des corps qui sont différents, mais qui ont encore des choses à l'endroit de l'émotion à partager avec le public. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire, en tout cas dans ce spectacle Beau Séjour, c'était de montrer des corps autres. Vous savez, quand on regarde le danseur hip-hop de 20 ans ou la danseuse hip-hop de 20 ans, enfin, ce sont des corps qui sont sveltes, musclés, qui sont athlétiques d'une certaine manière.
Très impressionnant même.
Mais voilà, à passer 50 ans, c'est plus les mêmes corps. Et donc, dans Beau Séjour, c'était un début, comment dire, j'ai commencé à montrer d'autres corps, notre énergie, pour que le spectateur aussi se prépare à regarder le corps autrement, la danse autrement, la danse hip-hop autrement. Voilà, c'est une étape pour moi. C'est d'ailleurs pour cela aussi que j'ai transformé des danseurs. J'ai pas travaillé avec des danseurs âgés, mais j'ai travaillé avec des danseurs jeunes que j'ai transformés en personnes âgées. Donc c'est une lecture quand même qui est assez étonnante, assez inattendue, et je suis ravi parce que des personnes âgées qui ont vu le spectacle m'ont dit mais c'est un beau cadeau que vous m'avez fait parce que je vais avoir envie de danser en rentrant à la maison ce soir. Je vais m'assumer, voilà. Donc ça c'est un beau retour que j'ai eu sur ce spectacle Beau Séjour.
Merci beaucoup en tout cas Mourad Merzouki d'être venu nous parler de votre parcours et bien sûr de votre spectacle Pixel. C'est au théâtre le 13e art, c'est à Paris et c'est jusqu'au 1er février. Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous, ça nous a donné envie d'écouter un tube d'un groupe avec lequel vous avez travaillé justement, et c'est Gotan Project, Epoca.
Desapareció en mí, aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá.
Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignier, Lise Ripoche et Louis Cosnar. Elle est réalisée par Anna Holweck, avec à la technique aujourd'hui Alexandre Dorn.